Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
9h15 secondes, Agnès Bonfillon me dit t'es en retard.
C'est important.
Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Incroyable, actualité du samedi 9 mai 2020. Agnès Bonfillon, au moindre relâchement, le Covid se rappelle à nous.
Oui, le 24 avril dernier en Dordogne, lors d'un enterrement, une des personnes présentes en a contaminé d'autres. Bonjour Patrick Tégéreau.
Bonjour à tous.
En fait, au fil des heures, Patrick, il y a eu de plus en plus de monde autour de la famille endeuillée.
Pourtant, à l'église, les règles avaient été respectées. Seulement une vingtaine de proches du défunt ont assisté à la cérémonie. Les distances étaient respectées, mais cela n'a pas dû être le cas au funérarium, puis au cimetière, où toute la famille s'est retrouvée. La longueur de la crémation, les retrouvailles entre parents venus parfois de fort loin, ont certainement facilité les contacts et donc la contamination. La cérémonie avait lieu le 24 avril. Le 1er mai, un des participants aux obsèques est diagnostiqué. Puis 5 cas sont repérés dans son entourage. Ils avaient tous assisté aux obsèques. L'Agence régionale de santé des déclenche alors le dispositif de dépistage. 100 tests ont été pratiqués et sur les 40 premiers résultats, 8 cas positifs. Les autorités sanitaires attendent encore une soixantaine de résultats. Toute la famille a été testée, mais aussi des amis, comme des salariés d'un producteur de fraises, des employés municipaux et des infirmiers. Les personnes positives n'ont pas de symptômes et resteront en confinement strict. Bref, une forte mobilisation pour maîtriser un risque qui perdure. Le préfet de Dordogne appelle à la prudence et à la rigueur.
Les précisions de Patrick Tégéreau pour RTL.
Et puis on voulait ce matin vous faire entendre de très belles retrouvailles.
Oui, lundi dernier sur RTL, vous avez peut-être entendu le témoignage très émouvant d'une fratrie confinée avec ses grands-parents et pour cause, hein, le père et la mère sont médecins réanimateurs et directrices d'un EHPAD. Autant dire que ces deux derniers mois, ils ont été très très occupés. Comme prévu, les enfants sont rentrés cette semaine chez eux à Clamart près de Paris. Attention, séquence émotion.
On était très contents de les retrouver parce que ça faisait 2 mois qu'ils nous ont manqué. J'ai pleuré et on les a embrassés et on se fait des gros câlins.
C'était des larmes de joie, on était tellement heureux de revoir nos parents après 2 mois. Sans parents, c'était long.
Quand ils sont partis, non seulement on avait cette tristesse, et c'était très très lourd, et en plus on a vécu un espèce de tsunami professionnel. De les voir revenir nous rapproche un peu d'une certaine normalité qui repose, quoi.
Dans nos métiers, eh bien, on a un devoir professionnel avant un devoir familial, et donc en sacrifiant finalement nos propres enfants à l'autel de nos boulots. Et ça, c'est hyper hyper dur déjà à admettre et à leur expliquer.
On peut pas leur en vouloir parce que c'est leur métier, c'est la vie.
C'est des héros, ils sont en première ligne, on est extrêmement fiers d'eux. Et
on s'est pris dans les bras, on a éclaté en sanglots parce que finalement, c'était aussi la fin d'un combat familial. Tout le reste ne comptera plus, maintenant on est ensemble.
Maintenant, on est ensemble. Des propos recueillis par Raphaël Vantard pour RTL.
Le déconfinement, c'est lundi, donc un lundi 11 mai à la plage, n'y comptez pas.
Hein. Ah oui, il va falloir attendre l'autorisation des préfectures quand les maires demandent une réouverture. Et puis sur l'eau, l'activité va reprendre tout doucement aussi, hein, y compris côté professionnel. De nombreux navigateurs ont dû faire une croix sur les premières compétitions de la saison. Le Vendée Globe, en novembre prochain, aura-t-il lieu ? Pour RTL, Patrice Gabart, vous avez rencontré 12 skippers, au Sable d'Olonne qui font preuve de beaucoup d'humilité par rapport à la situation.
Privé d'empennage et de virement de bord depuis bientôt 2 mois, Xavier Macker, skipper de la classe Figaro Beneteau, se réjouit de retrouver la mer dès lundi, la mer en toute simplicité, avant la voile de compétition. Explication de l'intéressé.
Ça me manque beaucoup de ne pas être en mer, mais retourner sur l'eau, éventuellement je vais aller surfer, ça va me requinquer, ou je vais faire un petit tour avec mon petit kata de sport. Pour ce qui est de la préparation, je vais y retourner, mais je vais d'abord réfléchir à une stratégie de préparation pour les mois à venir.
En revanche, le sable Arnaud Boissière, qui a déjà bouclé 3 Vendée Globes, et prépare activement la prochaine édition dont le départ devrait être donné le 8 novembre 2020, effectuera sa première navigation d'essai vendredi prochain sur son bateau tout juste remis à l'eau. Une préparation chamboulée.
C'est frustrant, c'est contraignant, c'est tout ce qu'on veut, mais moi personnellement je relativise par rapport à ce qui se passe en France et en Europe. Il y a quand même des morts encore aujourd'hui, donc la patience, enfin moi je la prends vraiment avec sérénité parce que avec ce qui se passe dans l'actualité, ce qui se passe vraiment, il faut être humble, quoi.
D'ailleurs, en signe d'exemple, et c'est à souligner, tous les skippers du Vendée Globe déjà autorisés autorisés à naviguer dans le cadre de leur préparation ont décidé d'attendre le 11 mai pour reprendre la mer, comme tout le monde, en signe de solidarité.
Le reportage de Patrice Gabart au Sable d'Olonne pour RTL.
Et puis vous faites peut-être partie de ceux qui vont devoir aller travailler lundi en prenant les transports en commun.
Avec de nouvelles habitudes à prendre, avec déjà le port du masque obligatoire, on le rappelle, partout en France. Et puis, en région parisienne, dans le métro, il vous faudra absolument, absolument une attestation de votre employeur durant les heures de pointe, c'est-à-dire de 6h à 9h30 le matin et de 16h à 19h l'après-midi. La RATP mise sur un accueil de 15% des usagers. C'est un vrai challenge, comme l'explique la PDG Catherine Gouillard.
Nous allons avoir plus de 300 stations et gares ouvertes. Toutes les gares de RER vont être ouvertes. Plus de 240 stations de métro seront ouvertes sur les 302. Donc, en gros, il y a 60 stations qui sont fermées. Les stations de métro et gares de RER de banlieue sont ouvertes. Toutes les stations de métro en correspondance avec les grandes gares parisiennes importantes pour la SNCF pour faire le pendulaire sont ouvertes. Et tous les grands pôles de transport sont ouverts, c'est-à-dire Châtelet, Saint-Lazare, Gare du Nord, Montparnasse. La seule qu'on ferme, c'est République, parce que là, vraiment, il y a 5 stations de métro qui arrivent. Les quais sont trop étroits. On veut aussi gérer la partie sécurité.
Des propos recueillis par Arnaud Touche pour RTL. Et on l'a appris il y a moins d'une heure, la sécurité routière lance une nouvelle campagne de prévention. Ce lundi, et ce n'est pas un hasard bien évidemment, les Français sont invités à faire preuve d'autant de prudence et de solidarité lorsqu'ils sont au volant que ces deux derniers mois. Pour cela, de nombreuses personnalités adressent un message aux utilisateurs de voitures, scooters, motos, vélos et trottinettes. Écoutez le président de la Fédération internationale automobile, Jean Todt.
Je vous invite à agir avec la même détermination que celle dont vous faites preuve face au Covid-19. Et à respecter les règles du code de la route.
Un nouveau virage est amorcé. Alors, ce que nous avons accompli en restant chez nous, continuons de le faire sur la route. Sécurité routière, vivre ensemble.
Voilà la nouvelle campagne de prévention de la sécurité routière qui débute lundi.
9h07 dans RTL Matin, la suite de l'actualité. Ce sont de très nombreux employés qui sont bloqués à bord de navires fantômes.
Et au large des États-Unis, en tout, ce sont 104 bateaux de croisière qui n'ont toujours pas le droit d'accoster. Alors tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Si les passagers ont été rapatriés, le personnel, lui, ne peut rien faire à part attendre, Pauline Simonet.
Les appels à l'aide se multiplient sur les réseaux sociaux depuis la centaine de bateaux de croisière bloqués en mer au large des États-Unis.
Je vous en supplie, j'ai vraiment besoin de rentrer chez moi. Je me sens désespérée. Je veux retourner sur la terre ferme.
Cela fait plus d'un mois et demi que cette danseuse est coincée sur le Celebrity au large de Miami. Rien à voir avec un séjour grand luxe, marin, cuisinier, animateur, agent d'entretien. Les employés sont la plupart du temps isolés dans leur cabine. Depuis le 13 mars, les autorités américaines ont interdit à ces gigantesques navires d'accoster. Les passagers ont été débarqués plus ou moins rapidement, mais les membres d'équipage, eux, de plus de 60 nationalités différentes, ont dû rester à bord. Les compagnies maritimes sont accusées de ne faire aucun effort car elles doivent rapatrier les membres d'équipage à leurs frais, mais elles mettent en cause les autorités américaines qui leur imposeraient des conditions de débarquement trop drastiques. L'odyssée s'annonce donc encore long pour ces dizaines de milliers de membres d'équipage, alors que beaucoup d'entre eux ne sont plus payés depuis plusieurs semaines.
Pauline Simonet aux États-Unis pour RTL. En Italie, la barre des 30 000 morts a été dépassée. Le pays se place derrière la Grande-Bretagne, qui, elle, déplore 31 000 décès dus au coronavirus. C'est dans ce contexte que la reine Elisabeth II s'est adressée à ses sujets hier, le 8 mai, jour de capitulation du régime nazi. Ne baissez jamais les bras, ne perdez jamais espoir, leur a-t-elle dit sur la BBC. Les mêmes mots employés par son père, le roi George VI, à la même heure en 1945. 75 ans, jour pour jour, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la mort d'une grande figure de la résistance française, Cécile Rol-Tanguy, la veuve du colonel Henri Rol-Tanguy, l'un des principaux acteurs de la libération de Paris. Eh bien, sa veuve avait 101 ans.
Et puis, comme tous les samedis, nous sommes avec notre spécialiste télé, Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour Isabelle.
Bonjour tout le monde.
Alors, vous nous l'avez bien expliqué, hein, pendant tout le confinement, la télé a été une valeur refuge. Et maintenant, ça y est, donc, comme tout le monde, ça reprend, par exemple, les jeux.
Exactement, on l'avait dit, on n'a pas menti. Après Camille Combal qui a retrouvé le plateau de Qui veut gagner 10 millions et enregistré jeudi 4 émissions, c'est entre autres à Nagui et à Jean-Luc Reichmann d'être lundi en plateau face en marathonien. Nagui va devoir livrer N'oubliez pas les paroles à 13h30 pour diffusion à 18h50 tout en faisant du stock. Pareil pour Jean-Luc Reichmann et ses 12 coups de midi. Son champion breton Eric arrive avec autorisation en voiture pour rester jusqu'à ce qu'il perde. Dernier test lundi matin, tournage ensuite pour mardi au moins, avec comme public les proches des candidats présents en direct, mais à distance, dans des cases. Idem pour Nagui, les deux producteurs disent merci à Visual Télé. Cette société a peaufiné en un temps record la technique qui permet de cadrer des gens au loin, jusqu'à 100 personnes aujourd'hui. Elle s'est exercée en supervisant la télé scolaire et surtout tous en cuisine. Le succès de Cyril Lignac, ça a été un déclic. C'était donc possible. C'est aussi développé le montage à distance. Pour le bêtisier de la 2 ce soir, le producteur était à un endroit, l'équipe à un autre, Bruno Guillon seul en studio, jamais 203.
Et y a-t-il d'autres enseignements à tirer de cette période?
Oui, d'abord, on le sait, la télé s'est avérée une valeur refuge. Incroyables audiences, jusqu'à 30 millions chaque soir. Grimpe internet, plus jeux vidéo, plus chaînes thématiques, sport excepté. Mais la télé généraliste s'impose, qui donne info et divertissement et fiction et patrimoine. Ensuite, bouleversement absolu des règles. On disait jamais de rediffusion de jeux. Ça ne sert qu'une fois, c'est ce qu'on appelle le flux. Or, N'oubliez pas les paroles et les 12 coups de midi ont été suivis par plus de 3 millions de fidèles à la revoyure, si j'ose dire. A contrario, on disait aussi, série et feuilleton, ça se reprogramme. Le public est preneur et repreneur. Il a la vue basse. Faux pour les feuilletons quotidiens. Plus belle la vie, c'était 3 500 000 fans pour le dernier inédit. 1,4 million seulement depuis, bah c'est normal. Le public côtoie les héros tous les jours. Il veut voir ce qui leur arrive devant, pas revoir ce qui leur est arrivé hier. Et à propos de public, seuls les jeunes pourraient être moins présents d'ici la fin juin. Ils vont, à un moment donné, devoir quitter le cocon familial moelleux pour regagner leur studio sans télé, souvent. Devrait en revanche rester 40 télétravail, une catégorie qu'on a très peu évoquée, les cadres supérieurs, voire certains patrons. Eux aussi, à côté du poste de travail, ont découvert le poste de télé familiale, ravi de regarder avec tout le monde les infos, scènes de ménage, la Starac ou ceci sur Paris Première, rien que pour vous.
Vous avez choisi à cause de votre manque d'intelligence, de vos condamnations et parce que vous êtes les seuls pilotes disponibles. Et en avant la fiesta.
Et ben ça fait un tabac sur Paris Première, alors c'est rien que pour vous parce que j'ai enfin découvert donc un feuilleton qui vous plaît.
Un vieux feuilleton qui me plaît, c'est ça que vous vouliez dire.
Un feuilleton intemporel.
C'est toujours, c'est en fait, surtout que vous êtes patron.
C'est ça.
Voilà. Oui,
les fameuses têtes brûlées. Merci beaucoup, Isabelle Morini-Vos pour la télévision, Agnès, RTL.fr, toute l'actu, évidemment. À la radio, le rendez-vous ce soir, c'est le sport. On va refaire le match avec toute l'équipe de Denis Balbir, avec un invité prestigieux, puisque c'est un Lyonnais, Jean-Michel Aulas, le patron de l'OL, qui sera là, et c'est un homme en colère en ce moment. C'est 18h30, 20h pour On refait le match.